auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle Les Chroniques Amnestiennes, émission sur les droits humains dans le monde. Aujourd'hui, nous serons trois à présenter l'émission, Pascal, Patricia et Jean-Michel. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Nous commencerons notre émission en faisant le bilan de notre présence à la journée des associations qui s'est déroulée à Albi samedi 11 septembre. Le 17 septembre 1981, l'Assemblée nationale votait pour l'abolition de la peine de mort en France. C'était l'aboutissement d'un long combat porté par Robert Badinter, ministre de la Justice sous la présidence de François Mitterrand. L'occasion pour notre groupe de faire le point sur la situation de l'abolition dans le monde, mais aussi de revenir sur ce moment important en reprenant quelques arguments formulés à la tribune de l'Assemblée par Robert Badinter et nous poser quelques questions sur les années à venir. Notre groupe vous invitera à une projection débat Salarcé le 13 octobre autour du film documentaire Lindy Lou, juré numéro 2. Après une pause musicale, nous commenterons le sort des réfugiés syriens qui rentrent dans leur pays. Un rapport d'Amnesty International dénonce les violations des droits humains commises par les agents des services syriens. En fait, tortures, viols, disparitions forcées ne prennent jamais fin. Une très mauvaise nouvelle. L'État du Texas restreint le droit à l'avortement. Les conséquences sont terribles. Nous reviendrons sur l'organisation de la Coupe du monde de football 2022 par le Qatar et la FIFA pour constater que des milliers de travailleurs migrants sont décédés de manière inexpliquée du fait de conditions de travail extrêmes et dangereuses. Enfin, nous terminerons cette émission en revenant sur les violences policières constatées lors de la Free Party organisée à Redon les 18 et 19 juin. Nous dénonçons un usage abusif de la force par la gendarmerie au moment de son intervention. Voilà, bien donc, nous allons commencer notre émission par parler un petit peu de la journée d'association qui s'est déroulée le 11 septembre, c'est une date
c'est
ça en
une
plus.
Une date historique, mais
Voilà, le 11 septembre, donc à Albi. Bon, nous étions présents comme tous les deux ans lors de cette manifestation, qui était, bon, d'abord on était favorisés par le soleil, ce qui est très bien, ça n'a pas toujours été le cas dans les années précédentes, on a connu des orages, mais on n'était pas seuls non plus, il y avait 290 associations, absolument, ce qui était quand même assez considérable. Bon, beaucoup de gens sont venus, c'était très agréable, et je pense qu'on a pu...
Ces gens voulaient
s'informer, échanger, bien sûr, on avait posé quelques pétitions pour expliciter... Je dirais quelques domaines d'action dans lesquels nous travaillons. Et bon, les pétitions présentées qui étaient là ont été signées assez largement. Voilà. Donc, que de retenir de ça, des gens très attentifs, à l'écoute, beaucoup de contacts qu'il nous faudra exploiter dans les jours à venir. Des pétitions qui ont interpellé parce qu'on était à la fois sur la peine de mort avec Rocky Myers, on était sur la défense des défenseurs de migrants, qui est une pétition en cours très importante à laquelle on tient, et puis la troisième pétition, c'était sur le sort des Ouïghours dont on a largement parlé dans notre émission la dernière fois. Voilà, donc c'était à nous maintenant aussi d'exploiter les contacts. Beaucoup de gens étaient intéressés, beaucoup plus qu'à une autre époque.
Oui.
Et il y avait à la fois des jeunes, des gens plus mûrs, voilà.
Sur tous les gens qu'on a vus, il y a eu deux personnes qui étaient pour la peine de mort.
Ah ben voilà, mais c'est bon d'échanger, même sur la peine de mort.
Un homme et une femme.
Et oui.
Oui.
On va en reparler tout à l'heure.
Ça n'est pas gagné.
Tout à fait. Voilà, donc écoutez, on est content. On a fait 76 signatures chaque pétition. C'était pas... un jour à faire des signatures, c'est un jour à faire des contacts. Mais les pétitions sont là pour expliciter notre action. Et finalement, tout ça a été à peu près correctement vécu. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour parler de la pétition de Rocky Myers. Ça fera un lien avec la peine de mort ensuite. Puisque nous avons reçu un mot de Myers, Lui-même, eh oui.
En donc, français
en anglais qui a été traduit en français.
Ah, je
vous passe l'anglais. J'y vais directement en français. Donc, bonjour. Détenu dans le couloir de la mort d'une prison d'Alabama. Donc, je vous le rappelle d'abord. Père de 4 enfants. Rocky Myers attend son exécution depuis plus de 27 ans. Il y a 2 mois, il fêtait ses 60 ans. Donc, beaucoup de gens lui ont souhaité, ont envoyé des pétitions. Et voilà ce qu'il nous dit dans ce petit mot. « Bonjour mes chers amis, je tiens vraiment à vous dire combien j'ai apprécié vos mots de soutien et vos vœux d'anniversaire. J'ai été submergé de messages, je n'aurais jamais cru que j'en recevrais autant et je suis très reconnaissant. Sincèrement, même si je suis en prison, cet anniversaire a été le meilleur de toute ma vie. Chaque jour, je loue le Seigneur d'avoir mis sur mon chemin des personnes comme vous. » Je prie pour que tout aille bien dans la vie de tous les membres de ma grande famille et pour que Dieu vous bénisse et vous protège. Sincère salutation, signé Rocky Myers. PS, nous sommes le 23 août, au moment où j'écris ça donc, et j'ai encore reçu des cartes. Voilà, donc nous on est contents de voir qu'il y a effectivement un suivi fort, que la pétition a bien marché, que bon bah... on peut encore sauver Rocky Myers de la peine capitale. Voilà, je vous rappelle que c'est des conditions très particulières, Rocky Myers. Il avait des problèmes mentaux, etc.
Et
rien n'est prouvé vraiment, en fait. Hein. Bon, voilà. Donc, continuons. Cette pétition est toujours en ligne. Signez-la si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, on va passer à notre sujet un petit peu phare de la journée, puisqu'on voulait profiter de la date anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, Patricia. Mm-hmm. Donc, je te laisse la parole.
C'est gentil, merci. Alors, il y a effectivement 40 ans, presque jour pour jour, puisque c'était le 18 septembre 1981, à l'Assemblée nationale, était votée en France l'abolition de la peine de mort. La France était à ce moment-là un des derniers pays d'Europe occidentale à condamner à la peine capitale. L'opinion publique était toujours favorable à cette exécution, 67% des gens. Pourtant, depuis longtemps, les opposants à la peine de mort tentaient de la faire supprimer. En 1908, déjà, était présenté par Aristide Briand, Gambetta, Clémenceau, Jean Jaurès à la Chambre des députés, un projet de loi abolitionniste soutenu par Émile Zola et bien d'autres intellectuels de gauche. Ça n'a pas été voté. Il a fallu attendre encore un siècle de combat pour que, sous le gouvernement de François Mitterrand, Robert Badinter, alors ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a passé sa vie à se battre pour que la justice française ne soit plus une justice qui tue, dans un discours resté célèbre dont on vous reparlera plus tard, emporte le vote favorable de l'Assemblée nationale à l'abolition de la peine de mort. En 1981, la France était le 37e pays ayant aboli cette peine capitale dans le monde. Hein. Depuis sa création, Amnesty International a combattu cette peine comme étant contraire au premier des droits humains, le droit à la vie. Le combat a continué ensuite en faveur d'une abolition inconditionnelle et universelle. C'est ça le combat actuel. Inconditionnelle et universelle de la peine de mort. L'opposition totale à ce châtiment barbare ne tolère aucune exception. Quelle que soit la nature ou les circonstances du crime, la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, la méthode utilisée par l'État pour l'exécution, du genre petite plaisanterie, genre piqûre, chaise électrique, peloton d'exécution et autres petits amusements absolument épouvantables. En 2002 a été créée la Coalition mondiale contre la peine de mort. C'est un collectif international d'ONG, énormément d'ONG, presque toutes, dont Amnesty International, bien sûr, des barreaux d'avocats, des collectivités locales et de syndicats, dont le but est de renforcer la dimension internationale du combat contre cette peine. Depuis sa création, cette coalition organise chaque année, le 10 octobre, la Journée mondiale contre la peine de mort. Alors, le point actuel sur l'abolition ou la non-abolition dans le monde. Selon le rapport d'Amnesty International, aujourd'hui, plus de 2/3 des pays ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Alors là, il faut faire une petite distinction, parce que 19 pays seulement ont aboli la peine capitale pour tous les crimes. 8 pays ont aboli la peine capitale pour tous les crimes, sauf les crimes exceptionnels tels que ceux commis en temps de guerre. C'est ouais. Un, ouais. Alors, seul.
On commence à mettre.
Ouais.
C'est un bémol.
Un drôle de bémol. Ouais. Alors, je vous cite le Brésil, le Burkina Faso, le Chili, le Guatemala, Israël. Mm-hmm. Ben, ils sont tout le temps en guerre, alors forcément, il faut que ça s'arrête. Kazakhstan, mm-hmm. pas terrible non plus. Pérou et Salvador.
Ouais.
Ça, c'est avec exception en temps de guerre. Et alors, il reste 28 pays qui sont considérés comme abolitionnistes en pratique, car depuis plus de 10 ans, ils n'ont procédé à aucune exécution. Enfin, on aimerait bien qu'ils prononcent vraiment, il faut une loi, oui. Et ratifier oui. par rapport. Mais enfin bon, ça fait quand même...
Ça tombe en désuétude,
donc
mais
ça nous
c'est
fait,
là.
Ça nous fait quand même 144 pays.
Mmh.
Il en reste.
Voilà. Qu'est-ce qui reste alors?
Bah, elle, c'est 690 à peu près, donc ça nous fait 56 à peu près, 56 pays qui sont encore bien, bien actifs. 56 pays maintiennent toujours la peine de mort et appliquent ce châtiment inhumain d'un autre âge. 18 pays ont procédé à d'exécutions en 2020.
Mmh.
Les 5 pays qui pratiquent le plus d'exécutions sont... Dans la priorité.
Oui, dans l'ordre.
La Chine, dont on ne connaît même pas le nombre d'exécutions. Parce que
on parle de 3, 4, 4 000, mais
on ne
bon,
sait,
sait pas.
On ne sait pas du ouais. tout. C'est facile hein, d'être exécuté en Chine, on disparaît comme ça. L'Iran,
mm-hmm.
voilà. L'Arabie Saoudite, à laquelle nous vendons des armes tous les jours. L'Irak et l'Égypte.
Mm-hmm.
Voilà. En 2020, les exécutions recensées par Amnesty International ont continué à diminuer pour atteindre le niveau le plus bas depuis 10 ans. Serait-ce une conséquence de la pandémie, peut-être?
Ah, peut-être.
Ça, c'est pas très facile. Ça diminue, ça diminue. Il y a divers traités internationaux qui ont été adoptés ou ratifiés par un grand nombre d'États. Bon, attention, parce que c'est pas parce qu'un État ratifie un traité international
oui,
qui va
ça,
absolument
va
l'appliquer.
Hein,
c'est, on a
fait,
vu, ouais. on a vu des choses, mais enfin bon. Par exemple, hein, le protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort a été ratifié par 13 États, mais c'est pour le continent américain.
Mm-hmm.
Donc, c'est plus là. Alors, aux États-Unis, on a une grande victoire. c'est très symbolique, mais la Virginie, a adopté cette
oui,
année.
Exact.
Mais
c'est
alors, ce qui est intéressant, c'est que la Virginie, c'est un État du Sud.
Oui,
vous savez,
dans
les gens, ils leur disent, les Yankees et les pauvres, les sudistes. Et alors, c'est le premier État du Sud. Enfin bon, avant que le Texas l'adopte, on va attendre.
Oui.
Donc, 23 États des États-Unis, ça veut dire plus de la moitié des États.
Oui.
Alors, bon, bah, il ne faut pas trop se réjouir parce qu'il reste en ce moment. 28 000 hommes et femmes dans le monde se trouvent sous le coup d'une condamnation à mort. Aux États-Unis, la peine de mort est toujours utilisée contre les personnes souffrant de déficience mentale ou intellectuelle.
C'est le cas de Rocky Myers.
Sans effet dissuasif sur la criminalité, ça a été prouvé et reprouvé partout que le fait de maintenir la peine de mort ne dissuadait pas les criminels.
D'ailleurs, Madame
Terre... l'exécution d'une personne ou l'attente de cette exécution, ça c'est ce que je trouve moi personnellement absolument épouvantable, de passer 27 ans à attendre son exécution. L'attente de cette exécution dans des conditions épouvantables est un acte de vengeance, de cruauté, de torture.
De torture.
Et pas de justice.
Tout à fait.
Voilà, le combat continue.
Très bien, merci Patricia. J'ajouterai que le dernier pays à avoir aboli la peine de mort, c'est la Sierra Leone, très récemment. Voilà, je vois une chose d'avance. Hein. Bon.
Ouais.
Voilà. Bien. Voilà, donc on va juste continuer à travers le discours de Robert Badinter, nous a semblé que cet anniversaire, 40 ans déjà, justifié de reprendre quelques phrases du discours qu'a prononcé Robert Badinter. Il faut nous replonger dans l'atmosphère de l'époque, et son discours était bien fait. Alors je ne sais pas, nos chers auditeurs, vous avez peut-être vu un document très récent sur la vie de Robert Badinter qui est passé, alors je ne sais plus si c'est Arte ou La 5, très bien fait, qui contient bien sûr beaucoup de choses sur ce qu'il a fait et
c'est
dit pour la peine de mort.
Son combat.
Et là, la peine de mort est mise en avant, évidemment, et on retrouve ce discours, pas intégralement, mais enfin presque. Voilà.
Sur le site d'Amnesty également.
Et sur le site d'Amnesty, il y a également, voilà, vous avez des liens, c'est très important. Et je crois qu'il faut absolument se remettre dans le bain. Alors, je vous livre quelques extraits. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale d'abolition de la peine de mort en France. Quelques extraits donc. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. C'est bien Robert Badinter qui parle. Hein. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont elle était si souvent le foyer et le pôle à abolir la peine de mort. Ouais. Une parenthèse, France, pays des droits de l'homme, d'accord, mais enfin, on est quand même les derniers en occidental à avoir aboli la peine de mort.
Non, France, pays de la déclaration
des
droits de l'homme.
C'est
on est
ce
tout
différence.
À fait d'accord.
Oui. Et pas de la déclaration. Voilà.
C'est-à-dire que dans son interview, il dit non, la France, pays des droits de l'homme, non.
Non, bien bah, sûr que non.
Exactement, c'est ce que tu dis.
La déclaration.
Voilà.
Il le dit.
Donc je reviens à Robert Badinter. Mais je dois rappeler, puisqu'à l'évidence, sa parole n'est pas éteinte en vous, la phrase que prononça Jaurès. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution.
C'est bien.
Je reprends donc son texte. Certains membres du gouvernement, et non des moindres, s'étaient déclarés à titre personnel partisans de l'abolition, mais on avait le sentiment à entendre ceux qui avaient la responsabilité de la proposer que dans ce domaine, il était là encore urgent d'attendre. Attendre après 200 ans. Attendre comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu'on devrait laisser mûrir avant de le cueillir. Attendre, nous savons bien en vérité que la cause était la crainte de l'opinion publique. D'ailleurs, certains vous diront, mesdames, messieurs les députés, qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez les règles de la démocratie parce que vous ignoreriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Nul plus que vous, à l'instant du vote sur l'abolition, ne respectera la loi fondamentale de la démocratie. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour tous les abolitionnistes, il est impossible de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort parce qu'ils savent qu'elle est faillible. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune d'exécution furtive à l'aube, sous le dénoir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Conclusion. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue.
Mercredi 13 octobre, à la salle de cinéma de l'Arcé à Albi. C'est la salle de cinéma d'art et d'essai qui est à côté du Grand Théâtre. Sera projeté un film sur ce sujet qui s'appelle Lindy Lou, jurée numéro 2. Ce film traite de la peine de mort aux États-Unis et plus particulièrement dans l'État du Mississippi, sous un angle original. Il donne la voix aux jurés, simples citoyens, qui, dans le temps d'un procès, ont un pouvoir de vie ou de mort sur un accusé. Ce sont les voix différentes d'une Amérique confrontée à la sentence capitale. Le synopsis, c'est il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d'un jury dans le cadre d'un procès pour meurtre. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame aujourd'hui à travers le Mississippi ? Dans le but de confronter son expérience à celle des 11 jurés avec lesquels elle a condamné un homme à mort. Acteur décisif dans l'application ou non de cette sentence, les jurés peuvent en devenir aussi les victimes collatérales, car ils ont un pouvoir redoutable, celui de donner ou non la mort. Peu de films ou de documentaires sur la peine capitale aux États-Unis s'attachent à nous faire ressentir la charge que représente pour un simple citoyen cette responsabilité. La plupart des documentaires sur le sujet donnent habituellement la voix aux condamnés, aux familles de victimes ou aux militants abolitionnistes. En choisissant le point de vue des jurés, ce long métrage amène le spectateur à réfléchir au poids du jugement rendu et à sa propre position sur, au regard de la peine capitale. Donc ce film est sorti en 2018, il dure 1h24 et vous êtes tous conviés à venir. Alors je dois ajouter une petite note personnelle. Il se trouve que j'ai étudié le droit et j'avais très envie de devenir juge. Mais il était hors de question que je devienne juge tant que la peine de mort serait au programme. Donc j'ai eu de la chance parce que quand j'ai eu à peu près 40 ans, elle a été supprimée. Donc je suis devenue magistrat. Mais il était hors de question que je puisse me trouver
devant cette décision, tout à fait.
Voilà. Ouais. Ça, c'était tout à fait.
On te comprend, Patricia.
Personnel.
Voilà, donc venez nombreux à ce film, donc le 13 octobre, c'est ça, 20h30, à l'Arcé. Nous y débattrons ensemble des questions qui seront abordées. Par exemple, est-ce que la peine capitale peut revenir un jour? Bon, on vous dira que non, a priori.
Mais parce que les gens continuent à poser la question.
Donc, il y a toujours cette confrontation opinion publique et puis réalité des faits. Donc, je crois qu'il est intéressant de continuer à en parler. Hein. On a vu parfois des retours arrière surprenants. Alors, on va le voir sur l'avortement, par exemple, aux États-Unis. Hein, par exemple.
Voilà. Rien n'est jamais acquis.
Rien n'est jamais acquis, définitivement. Il faut être vigilant.
Que j'ai joué à vous sa majesté la mer, aux vagues venues se briser depuis l'autre bout de la terre. J'aurais mille questions à poser, vous qui avez croisé les hivers qui ne sont pas encore arrivés du côté de mon hémisphère, du côté de mon hémisphère. Prochaine note que je jouerai, à vous sa majesté la mer, aux voix qui viendront m'enlever le dernier petit goût amer que j'aurai au fond du gosier. Quand j'irai adieu à ma mère, j'aurai mille questions à poser, ou qui avait parlé aux rivières, qui avait roulé tant de rochers, écumé tant de misère. Des enfants qui fuyaient la guerre, que des salauds avaient armés pour faire fleurir leurs petites affaires. J'aurais mille questions à poser, à vous sa majesté la mer, devant autant d'absurdité et au nom du grand univers. Ne pourriez-vous pas pour une fois couler ces yachts de milliardaires plutôt que ces petits radeaux en bois ou entasser rêves mes frères, plutôt que ces petits radeaux en bois ou entasser rêves mes frères. Que je jouerai, à vous sa majesté la mer, à ma dernière tasse d'eau salée, à ma dernière bouffée d'air, à la vague qui aura raison de mon envie de résister, et au nom du grand univers, devant autant d'absurdité, je voudrais retrouver la paix, et pour finir me laisser faire, je voudrais retrouver la paix. Et pour finir vous laisser faire, et enfin me laisser aller, à voir majesté la mer, et enfin me laisser couler, sans papier majesté la mer.
Auditeur de Radio Albigès, vous êtes toujours avec le groupe local d'Amnesty International, le groupe d'Albi, pour son émission mensuelle, les chroniques amnestiennes. Voilà, donc nous allons continuer notre présentation des sujets. On va attaquer justement un sujet qui revient malheureusement souvent depuis des années, puisqu'il s'agit de la Syrie. Et nous allons parler des viols, tortures, disparitions, c'est-à-dire le terrible sort des réfugiés syriens qui rentrent dans leur pays. Comme vous le savez, certains ont voulu rentrer dans leur pays, puisqu'on leur a dit « revenez, c'est fini ». On va voir dans quelles conditions se passe justement ce retour. Et c'est assez incroyable. Alors, effectivement, comme je vous le disais, le gouvernement de Bachar el-Assad s'efforce de peindre la Syrie, de dépeindre la Syrie comme un pays en reconstruction. Et pour celles et ceux qui y retournent, ben, c'est une autre réalité. Amnesty International a sorti un rapport, You're Going to Your Death, donc vous allez vers votre mort, et qui a documenté les violations des droits humains commises par des agents des services de renseignement syriens contre 66 personnes revenues dans leur pays, dont 13 enfants. Parmi elles, 5 sont mortes en détention après être rentrées en Syrie, 17 autres demeurent introuvables, victimes de disparitions forcées.
Alors les États comme le Danemark, la Suède et la Turquie qui limitent la protection accordée aux réfugiés originaires de Syrie et font pression pour qu'ils rentrent chez eux, ne peuvent plus ignorer ces exactions désormais documentées. En ignorant la réalité sur le terrain, ces pays mettent une nouvelle fois les personnes réfugiées en danger de mort. Si les hostilités militaires ont pris fin, la propension du gouvernement syrien à commettre de graves atteintes aux droits humains reste intacte, a souligné Marie Forestier, chercheuse sur les droits des personnes réfugiées et migrantes à Amnesty International. La torture, les disparitions forcées et les détentions arbitraires ou illégales qui ont contraint de nombreux Syriens à chercher refuge à l'étranger n'ont jamais pris fin.
Pris pour cible pour avoir fui le pays, les témoignages poignants contenus dans le rapport prouve, s'il le fallait encore, que le territoire syrien n'est pas un endroit sûr où rentrer. Parce qu'un jour, ils ont décidé de fuir, celles et ceux qui rentrent en Syrie sont pris pour cible, accusés de manque de loyauté, de trahison, voire de terrorisme par les agents du renseignement. Le seul fait d'avoir fui la Syrie suffit à placer ceux qui rentrent dans le collimateur des autorités. Dans certains cas, les personnes qui sont rentrées ont été ciblées uniquement parce qu'elles venaient de régions de Syrie qui avaient été contrôlées par l'opposition.
Oui, quelques exemples. Des membres de forces de sécurité syriennes ont par exemple arrêté Karim. Alors on a changé les noms, évidemment. Oui. Arrêté Karim 4 jours après son retour du Liban dans son village. Karim a indiqué avoir été torturé pendant ses 6 mois de détention. Il nous dit « Une fois libéré, je n'ai pas pu voir les personnes qui me rendaient visite pendant 5 mois. » J'avais trop peur pour parler à quelqu'un. J'avais des cauchemars, des hallucinations. Je parlais pendant mon sommeil. Je me réveillais en pleurant et j'étais effrayé. Je suis handicapé. Les nerfs de ma main droite ont des lésions dues à la torture, tout comme certains disques de ma colonne.
Le rapport d'Amnesty pointe aussi le recours répété aux violences sexuelles. Amnesty a recensé 14 cas de violences sexuelles commises par les forces de sécurité sur des femmes, un adolescent et une fillette de 5 ans. Ces violences se sont déroulées aux postes frontières ou dans des centres de détention lors d'interrogatoires. Ces témoignages coïncident avec les pratiques avérées de violences sexuelles et de viols commis contre des civils et des détenus durant le conflit par les forces pro-gouvernementales.
Lorsque Nour est rentrée du Liban, elle a été arrêtée à la frontière par un membre des forces de sécurité qui lui a dit « Pourquoi as-tu quitté la Syrie ? Parce que tu n'aimes pas Bachar el-Assad ? Et tu n'aimes pas la Syrie, tu es une terroriste. La Syrie n'est pas un hôtel où tu peux entrer et sortir comme bon te semble. » Puis il a violé Nour et sa fillette de 5 ans dans une petite pièce qui sert aux interrogatoires au poste frontière.
Prenons maintenant le cas de Yasmine, qui est rentré du Liban avec son fils adolescent et sa fillette de 3 ans. Les forces de sécurité les ont immédiatement arrêtés au poste frontière et ont accusé Yasmine d'espionnage pour le compte d'un pays étranger. La mère et ses enfants ont été transférés dans un centre de détention des services de renseignement où ils sont restés 29 heures. Des agents l'ont violé et ont emmené son fils dans une autre pièce où ils l'ont violé avec un objet. L'agent qui a violé Yasmine lui a dit « C'est en guise de bienvenue dans ton pays. Si tu quittes une nouvelle fois la Syrie et que tu reviens, on t'accueillera encore mieux. On cherche à t'humilier, toi et ton fils. Vous vous souviendrez de cette humiliation toute votre vie. »
Le rapport fait également part des tortures et disparitions forcées. Parmi les 66 personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus, 59 hommes, femmes et enfants ont été détenus arbitrairement après être rentrés en Syrie. La plupart du temps à la suite d'accusations vagues de terrorisme. 33 ont subi des actes de torture ou des mauvais traitements au cours de leur détention ou de leurs interrogatoires. L'objectif, les forcer à avouer des crimes présumés et les punir pour leur opposition présumée également au gouvernement.
De même, Yasmine a été arrêtée à un poste de contrôle juste après avoir franchi la frontière libanaise. Il a passé 4 mois en prison. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à être torturée dans cette pièce, dit-il. Parfois, lorsqu'un agent me frappait, je comptais chaque coup. J'arrivais parfois à 50 ou 60 avant de perdre connaissance. Une fois, je suis allée jusqu'à 100.
Prenons le cas d'Ismaël, détenu dans 4 sections différentes des services de renseignement en 3 mois et demi. Il a raconté « Ils m'ont électrocuté entre les yeux. J'ai senti tout mon cerveau trembler. Je voulais mourir. Je ne savais pas si c'était le matin ou la nuit. Je ne pouvais pas me tenir sur mes jambes, même pour aller aux interrogatoires. Il fallait qu'ils me soutiennent pour m'y emmener et me ramener. »
Les disparitions forcées sont également monnaie courante. Ibrahim a raconté que son cousin ainsi que son épouse et leurs 3 enfants avaient été arrêtés à leur retour de France en 2019. À ce jour, la famille a disparu depuis 2 ans et 8 mois.
Donc, aucune région de Syrie n'est sûre. Les combats en Syrie ont nettement diminué au cours de ces 3 dernières années. Le gouvernement syrien contrôle désormais plus de 70% du territoire. Et les autorités syriennes encouragent publiquement les réfugiés à rentrer dans leur pays. Dans ce contexte, plusieurs pays d'accueil commencent à réexaminer la protection accordée aux personnes originaires de Syrie. Au Liban et en Turquie, où de nombreux réfugiés endurent des conditions de vie difficiles et subissent la discrimination, les gouvernements font de plus en plus pression sur les Syriens pour qu'ils retournent chez eux. En Europe, le Danemark et la Suède réévaluent les permis de séjour des demandeurs d'asile qui viennent des régions qu'ils considèrent comme sûres pour des retours, notamment Damas et ses alentours. Un tiers des cas présentés dans ce rapport concernent des violations commises à Damas et aux alentours.
Le rapport d'Amnesty est sans appel. Aucune région de Syrie n'est sûre. Les personnes qui ont fui leur pays au début du conflit risquent fortement de subir des persécutions à leur retour, du fait de leurs opinions politiques présumées ou simplement à titre de punition pour avoir quitté le pays. Le gouvernement de Bachar el-Assad s'efforce de dépeindre la Syrie comme un pays en reconstruction. La réalité est que les autorités syriennes continuent de se livrer à des atteintes aux droits humains systématiques et généralisées.
Amnesty International demande aux autorités syriennes d'assurer la protection et le respect des droits fondamentaux des personnes qui rentrent dans leur pays et de cesser toute violation. Aux pays qui accueillent des réfugiés syriens, de continuer de leur fournir un refuge et de garantir leur protection contre les atrocités commises par le gouvernement syrien. Au gouvernement européen de cesser de contraindre directement ou indirectement des personnes à retourner en Syrie. Au gouvernement du Liban, de la Turquie et de la Jordanie de protéger les réfugiés contre les Syriens, contre l'expulsion ou toute autre forme de renvoi forcé, conformément à leurs obligations internationales.
Conclusion, la situation en Syrie ne s'arrange pas. Pascal, malheureusement, une mauvaise nouvelle. Le Texas, aux États-Unis, donc, restreint violemment le droit à l'avortement.
Oui, le 1er septembre 2021, la loi anti-avortement entre en vigueur au Texas. Cette loi rétrograde met en danger la vie de milliers de femmes. Désormais, il est interdit d'avorter au-delà de 6 semaines de grossesse au Texas. En général, il y a beaucoup de femmes qui, à 6 semaines de grossesse, ne savent pas qu'elles sont enceintes. Cette interdiction va avoir de graves conséquences en mettant en danger la vie de personnes et en rendant passible de poursuites des professionnels de santé qui fournissent des soins vitaux. Elle doit être condamnée sans équivoque, car elle réduit à néant plusieurs décennies de garanties obtenues pour le bien-être de toutes les femmes, les filles et les personnes enceintes. La seule personne qui devrait être habilitée à prendre des décisions sur sa grossesse est la personne qui est enceinte. Cette interdiction prive violemment les personnes de la décision de prolonger une grossesse avant même que la plupart prennent conscience qu'elles sont enceintes. Et ce qui est en jeu avec cette loi et les textes similaires, c'est le droit fondamental de toute personne de disposer librement de son corps. Nous condamnons fermement cette loi et appelons les autorités à respecter et protéger les droits des femmes et de toutes les personnes enceintes, y compris le droit à l'avortement. Nous considérons que l'avortement est un droit. Les décisions concernant la grossesse et l'avortement ont une incidence directe sur l'ensemble des droits humains des personnes enceintes.
Oui, alors tout ça, c'est la conséquence, quelque part, bien sûr, de la composition du tribunal de la Cour suprême, hein, que Trump a vachement tiré dans ce sens-là.
Elle n'a pas encore statué.
Elle n'a pas censuré la loi, donc elle laisse faire.
Oui, mais elle a pas donné son avis.
Ouais. Bon, enfin, elle n'a pas censuré la loi, elle aurait dû le faire, puisque depuis 1973, le fameux amendement Wade, normalement, maintenant, il n'y a pas de problème, on ne devrait pas revenir en arrière dans l'application. Et alors, Biden a poursuivi l'État pour avoir promulgué cette loi. Donc, on attend la suite.
C'est ça.
Mais c'est quand même très mauvais augure aujourd'hui. Parce que
la Cour suprême est majoritairement
républicaine. Et bien conservatrice.
Et bien conservatrice. Et qui sont élus jusqu'à leur mort.
Donc, à suivre tout ça. Alors, devant l'avortement, je dirais simplement qu'on est dans des situations assez extraordinaire. D'un côté, on a ces retours arrière, comme au Texas, comme en Pologne. Et on a par contre des progrès qu'on ne peut...
Oui, la victoire des femmes en Argentine.
En Argentine, en Irlande, assez récemment. Tout ça est un domaine vraiment, vraiment difficile. Il nous faut continuer à lutter. Il faut que les personnes qui sont... comme tu l'as dit, Pascal, la seule personne habilitée à prendre des décisions sur la grossesse, c'est la personne qui est enceinte.
Il me semble,
Donc, continuons la lutte. Il va falloir suivre ça de très très près. On va aborder un sujet que l'on avait abordé en son temps déjà, lorsque d'ailleurs la Coupe du Monde au Qatar avait été... lorsque la Coupe du Monde avait été attribuée au Qatar par la FIFA, on était inquiété de la façon dont les travaux se réalisaient. Alors il y a eu des améliorations, oui, quelques-unes, mais enfin quand même. Aujourd'hui le constat c'est que les causes de la mort de milliers de travailleurs migrants, a priori sont dissimulées par le Qatar. Donc, ce genre de situation, on essaie de ne pas en parler, quoi. Donc, on cache, on dit qu'on a pris des mesures, mais le constat est là. Voilà. Donc, tout ce que l'on sait, c'est que... ce qui est réel, c'est que plusieurs milliers de travailleurs migrants sont décédés donc sur ces grands projets d'infrastructure dans le pays. Et malgré les nombreuses informations qui établissent un lien entre la mort de ces travailleurs et leurs conditions de travail dangereuses, les autorités qatariennes n'ont mené aucune enquête exhaustive sur les réelles causes des décès.
Oui, Amnesty a enquêté sur les décès de nombreux travailleurs migrants au Qatar. Selon leurs recherches, près de 70% de ces décès restent inexpliqués. Les statistiques officielles du Qatar indiquent que plus de 15 021 personnes non qataries de tous âges et de toutes professions sont mortes entre 2010 et 2019, ce qui est énorme.
Tout à fait.
Mais sans enquête, les données sur les causes des décès ne sont pas fiables.
Malgré de nouvelles dispositions pour protéger les travailleurs dans le pays, certains dangers majeurs persistent, tels que les conditions climatiques extrêmes du Qatar, en particulier quand elles sont associées à un travail physiquement exténuant. Aucune mesure concrète n'a été prise pour y faire face.
Le rapport d'Amnesty International donne la parole aux familles des victimes et dénonce l'inaction des autorités qatariennes malgré des milliers de morts. Quand des hommes relativement jeunes et en bonne santé meurent soudainement après de longues heures de travail par une chaleur extrême, cela incite à s'interroger sur la sécurité des conditions de travail au Qatar. L'un de ces risques les plus documentés et prévisibles pour la vie et la santé des travailleurs et travailleuses au Qatar est l'exposition à une chaleur et une humidité extrêmes.
Amnesty a examiné 18 certificats de décès de travailleurs migrants délivrés par le Qatar entre 2017 et 2021. 15 de ces documents ne fournissent aucune information sur les causes sous-jacentes du décès, indiquant des causes n'étant pas liées au travail. Les expressions dénuées de sens utilisées pour qualifier les décès, insuffisance cardiaque, cause naturelle, nous incitent à penser qu'aucune enquête n'a été menée sur ces cas et masquent le fait que de nombreux décès restent inexpliqués.
Nous avons également mené des entretiens avec les familles de 6 travailleurs migrants décédés qui avaient tous entre 30 et 40 ans au moment de leur mort et n'avaient aucun problème de santé connu. Tous sont morts après avoir été exposés à un travail difficile dans des conditions climatiques extrêmes, ou 50 degrés, c'est la moyenne.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et bon, on constate que les familles des victimes sont sous le choc. On a Amnesty à interroger les familles de ces hommes au Népal et au Bangladesh. Elles étaient bouleversées par la mort de leurs proches qu'elles pensaient en bonne santé. Une étude parue en 2019 dans la revue Cardiologie a établi une corrélation entre la chaleur et la mort d'ouvriers népalais au Qatar, indiquant que pas moins de 200 des 571 décès cardiovasculaires de travailleurs migrants népalais sur la période 2009-2017 pourraient avoir été évités avec des mesures efficaces de protection contre la chaleur.
Alors, jusqu'à récemment, la principale protection contre le stress dû à la chaleur dans le cadre du travail au Qatar était une interdiction du travail à l'extérieur, à certaines heures, entre le 15 juin et le 31 août. Il n'existait aucune restriction pour le reste de l'année. En mai 2021, le Qatar a élargi cette période d'interdiction concernant certaines plages horaires en été. Ces nouvelles dispositions législatives accordent entre autres aux travailleurs le droit de cesser de travailler et de porter plainte en cas de préoccupations liées au stress thermique.
Très bien. Enfin.
Si la nouvelle réglementation améliore, en principe, la protection des travailleurs, elle est très insuffisante par rapport à ce qui est nécessaire. Par exemple, elle n'impose pas de période de repos obligatoire proportionnelle aux conditions climatiques ou à la nature du travail accompli. Au lieu de cela, elle accorde aux travailleurs le droit de travailler à leur propre rythme, entre guillemets, quand il fait chaud. Compte tenu des relations et de pouvoirs et des pressions exercées sur les travailleurs par les employeurs, il paraît peu probable qu'ils aient la possibilité de travailler à leur propre rythme.
C'est assez hypocrite, tout à fait. Et de plus, on a constaté qu'il n'y avait aucune indemnité pour les familles des victimes. Aucune des familles ne s'est vu proposer une quelconque forme d'examen post-mortem pour déterminer les causes du décès de leurs proches. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu être établi si les conditions de travail ont contribué au décès, ce qui, bien sûr, a exclu la possibilité d'une indemnisation, soit par l'employeur, soit par les autorités qatariennes.
Alors, le cycle de l'exploitation continue même après la mort des victimes, c'est-à-dire qu'en plus d'être privées de leur droit à une indemnité, les familles endeuillées se retrouvent prises dans un engrenage. Elles doivent rembourser les frais que leurs proches décédés devaient payer dans le cadre de leur migration au Qatar. Certaines s'endettent, d'autres vendent leurs biens. Tous nos rêves ont été brisés quand mon frère a perdu la vie, dit un parent. Il espérait améliorer son niveau de vie, mais ils n'ont pas pu mettre de l'argent de côté car la majeure partie de son salaire a été utilisée pour rembourser le coût de la migration. Le Qatar est l'un des pays les plus riches du monde. Il a non seulement les moyens, mais aussi l'obligation de faire beaucoup mieux pour protéger les travailleurs migrants.
La boucle est vraiment bouclée, là.
Nous demandons aux autorités qatariennes de mener une enquête exhaustive sur la mort de tous les travailleurs migrants, améliorer le processus de certification en cas de décès permettant d'en identifier la cause, verser une indemnité aux familles chaque fois que les conditions de travail et climatiques ne peuvent pas être exclues en tant que facteurs ayant contribué au décès, renforcer immédiatement la protection de tous les travailleurs, pallier les conditions de travail extrêmes en rendant, par exemple, les pauses obligatoires. J'ai envie de rajouter, et surtout de ne pas faire cette Coupe du Monde en pleine chaleur.
Ouais, c'est
aberrant.
C'est complètement aberrant. Alors justement, tu me donnes la transition pour la FIFA, parce qu'elle est quand même à l'origine l'attribution Coupe du Monde au Qatar. Et la FIFA n'est pas neutre dans cette affaire. Ah, on l'a dit, on a fait quand même pas mal de pétitions, d'actions dans ce sens-là. Et nous disons encore que la FIFA doit mettre fin à l'exploitation des travailleurs migrants. Ils sont au cœur de la réalisation du rêve du Qatar d'accueillir la Coupe du Monde. Un rêve en surface, un calvaire pour les travailleurs. Mais derrière les paillettes de l'événement sportif, les travailleurs, on l'a vu, souffrent et risquent leur vie et le payent cher. La FIFA a clairement la responsabilité d'agir pour que les personnes travaillant sur des projets de la Coupe du Monde ne soient plus victimes d'abus de leurs droits. Elle doit user de son influence pour inciter le Qatar à protéger tous les travailleurs migrants. Il faut demander à la FIFA de mettre fin à l'exploitation de ces travailleurs au Qatar. Alors, il y a une pétition qui vous attend, chers auditeurs, sur le site amnesty.fr, qui reprend tout ça, qui s'adresse à la FIFA, qui, en tant que, j'allais dire,
pas maître d'œuvre,
mais voilà, tout à fait, organisateur ayant confié la responsabilité au Qatar, et au même niveau que le Qatar, responsable de ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, on vous attend, signé en masse, la Coupe du Monde a lieu fin 2022, bon, je pense qu'elle aura lieu, mais bon, malgré tout ce qu'il y a pu se dire, bah oui, en hiver, on ne peut pas faire autrement, là, c'est bon. Mais ce sera climatisé grâce aux travailleurs qui ont travaillé pour les Qataris. Voilà, c'est bien, voilà, génial. Bien. Certains, beaucoup ne seront pas là pour le voir. Non. Voilà, donc allez en ligne, signez sur amnesty.fr et plus on sera nombreux, plus on aura du poids. On va conclure l'émission sur les violences policières en France lors de la Free Party à Redon. Pascal, je te passe la parole.
Oui, donc, depuis des années, Amnesty International alerte sur le cas d'usage illégal de la force par les forces de l'ordre en France et les difficultés pour les victimes d'accéder à la justice. Alors, depuis plus de 15 ans, Amnesty enquête sur ces pratiques policières abusives ou illégales. La plupart de leurs recommandations n'ont pas été écoutées. Ainsi, les 18 et 19 juin 2021, une opération violente de maintien de l'ordre a été menée lors d'une free party à Redon, en hommage d'ailleurs à Steve, mort en 2019 après être tombé dans la Loire au cours d'une intervention violente de la police. À Redon, les forces de l'ordre ont lancé en pleine nuit et pendant plus de 7 heures des grenades lacrymogènes et assourdissantes sur la foule. Le bilan humain, un jeune homme a eu la main arrachée, des gendarmes et des dizaines de participants ont été blessés. Par exemple, une jeune fille a eu la joue trouée et plusieurs dents cassées par un éclat de grenade alors qu'elle dormait. Un organisateur a eu des côtes cassées après avoir reçu un coup de matraque dans le dos. Amnesty a réalisé une enquête et publié un rapport intitulé « Redon, Free Party de la répression » que vous pouvez retrouver sur notre site également, amnesty.fr, et qui analyse l'usage abusif et illégal de la force exercée par la gendarmerie au moment de son intervention. Alors il faut savoir qu'Amnesty publie cette enquête alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a clôturé le 14 septembre dernier les consultations du Beauvau de la sécurité qui visait, je cite, « à moderniser la politique publique de sécurité au bénéfice des policiers, des gendarmes et de l'ensemble des Français ». Or, cette enquête montre bien une dérive du maintien de l'ordre lors des opérations des 18 et 19 juin à l'occasion du Technival de Redon. Cécile Caudrillot, présidente d'Amnesty International France, a déclaré « Il est inacceptable que des opérations de maintien de l'ordre, a fortiori pour disperser un rassemblement festif, conduisent à des blessures allant jusqu'à la mutilation. Les forces de l'ordre doivent respecter les droits humains et les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force afin de garantir la sécurité des personnes. Amnesty appelle à des réformes transparentes et systémiques des pratiques policières » et à la mise en place d'un organe d'enquête indépendant et impartial sur les allégations de violences policières et de discrimination.
Alors, je pense que tout le monde a pu voir à la télé ces images. Moi, je me rappelle très bien de cette violence. On arrive en pleine nuit, on casse tout. Et on casse tout par plaisir, presque. Parce que finalement, quand on voit ça, on se dit, mais à quoi ça sert de casser tout ça, quoi ? Bon, il y avait un problème, certainement, oui. Il y avait une manif qui était a priori discutable parce qu'il y avait les conditions sanitaires, peut-être. Mais franchement, quelle violence ! Aucun contact vraiment pour discuter, pour...
Oui, tout totalement disproportionné.
C'était disproportionné.
Il n'y a pas de médiation dans d'autres pays
tout,
d'Europe.
On tapait, exactement. Pas de médiation. On attaquait. On y est allé dans le tas directement. Là. Et ça, c'est absolument anormal. Voilà, tout à fait. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a toujours la pétition « Manifester n'est pas un crime » qui concerne la France. Oui. Une pétition qui marche bien, qui va être remise au président de la République. Donc, on arrive à un bon nombre de dizaines de milliers à l'avoir signé, et il serait bon que ceux qui ne l'ont pas encore fait le fassent. On va bientôt la clôturer, et voilà. Donc je compte sur vous. Donc, notre émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a bien informé. La situation sanitaire semble évoluer dans le bon sens, à moins qu'il y ait encore une vague qui arrivera. Mais enfin, pour l'instant, ça a l'air d'aller mieux. Donc, on peut penser que nos activités pourront reprendre en cette fin d'année, un peu comme tous les ans. Je pense aux 10 jours pour signer, à notre grosse opération qui n'a pas eu l'an dernier, par exemple. Voilà, on en vous en reparlera. Mais en attendant, vous avez le film sur la peine de mort dont Patricia a parlé, hein, qu'il faut venir, il faut en discuter. Et j'espère que nous développerons cette année, puisqu'on a quand même une antenne jeune qui est en place maintenant. J'ai reçu la convention aujourd'hui au lycée de Carmaux. Je pense que dans les contacts que l'on a eus, pas mal de gens sont intéressés. Et en particulier, j'ai noté des jeunes qui pourraient peut-être lancer cette antenne jeune à la fac Champollion. Bon, voilà. Donc, si ça se fait, nous vous présenterons d'ailleurs ces gens-là, hein, oui, lors d'une émission ici. Et en tout cas, dans le temps, nous vous conseillons toujours d'aller signer, vous informer d'abord, lire nos rapports et puis signer les pétitions qui sont à votre disposition en ligne sur amnesty.fr. Voilà. Si nous voulons que les droits humains progressent, il faut continuer à agir avec nous et avec d'autres ONG qui vont dans ce sens-là. Il faut faire pression partout dans le monde sur les autorités pour que cessent les atteintes aux droits et libertés. Si vous souhaitez agir avec nous, c'est facile. Vous avez notre messagerie. Vous le trouverez tout de suite, de toute façon, albi@amnestyfrance.fr, et nous prendrons contact avec vous. Vous pouvez suivre nos actions. On a un blog. Voilà. Très bien. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous disons au mois prochain. Faites-nous part de vos commentaires et suggestions aux mêmes adresses. Et n'oubliez pas, vos signatures ont du pouvoir.